Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui.
La parole est à monsieur le Premier ministre.
Édouard Philippe, discours de politique générale cet après-midi. Lancement de l'acte 2 du quinquennat. Derrière ce slogan, des questions très concrètes. Faudra-t-il attendre 64 ans pour une retraite complète? Vrai virage écolo ou coup de peinture verte? Assurance chômage, quel gagnant, quel perdant? La PMA pour les couples de femmes, est-ce que c'est maintenant ou plus tard? Quelles économies pour gager les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts? Les enjeux politiques de ce discours avec Yaël Gauz qui vient de faire son entrée en studio. Et puis comment renouer le lien avec la France qui s'est sentie oubliée ces dernières années? Vous entendrez le vice-président de l'Association des maires de France. Gaz lacrymo et matraque, le pouvoir tente de mater la nouvelle flambée de manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Des dizaines de milliers de personnes dans la rue. L'examen du projet de loi vu comme une menace par les opposants à la Chine est reporté. Le passage à la démocratie a coûté 10 millions d'habitants au pays de l'Est. Les jeunes, les minorités en particulier, sont partis à l'Ouest. Une étude passionnante dresse un bilan de 30 ans de transition démocratique chez nos voisins. L'une de ses auteurs est notre invitée. Dans ce journal encore, comment se répartissent les dépenses de santé en France? Une nouvelle étude, une psychopathe, Isabelle Huppert, au cinéma cette semaine, un météorologue. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que nous dit Météo France aujourd'hui?
Eh bien, une large moitié ouest sera concernée par de nombreux nuages, des passages d'averses avec également des risques d'orage, voire de la grêle. Après-midi plus calme entre la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et les régions méditerranéennes, avec du soleil et de belles éclaircies. Et puis il fait un peu frais pour la saison cet après-midi. Pourtant, les températures sont en légère hausse, variant de 15 à 23 degrés. On a quand même 27 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur.
A tout à l'heure pour d'autres détails. Avant cela, il y aura notre rendez-vous quotidien avec la Coupe du Monde féminine de football France-Norvège. Ce soir, sans la meilleure joueuse du monde, Ada Hegerberg, elle refuse de jouer en équipe nationale de Norvège tant que les filles ne sont pas aussi bien considérées que les garçons. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, malgré un destin difficile, je reste toujours optimiste.
Extrait du premier discours de politique générale d'Édouard Philippe. Il citait Simone Veil. C'était le 4 juillet 2017. Le nouveau monde avait alors l'avenir devant lui. Un jeune président venait de renverser la table. Cote de popularité 66%. Deux ans plus tard sont passés l'affaire Benalla, les gilets jaunes, le grand débat, l'image d'un président des riches et pas écolo. Passé aussi quelques réformes sur lesquelles d'autres s'étaient cassés les dents, la SNCF, le marché du travail, l'apprentissage. Et la France est jugée par beaucoup plus attractive. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Bruno.
Nouveau discours de politique générale d'Édouard Philippe à 15h cet après-midi. C'est sur sa capacité à réformer, même en des temps moins glorieux que naguère, que sera jugé le pouvoir. De ce point de vue, je ne sais pas si la pente est droite, mais elle est raide. Les dossiers qu'Édouard Philippe va poser sur la tribune de l'Assemblée tout à l'heure sont lourds de contestation, Yaël.
Ouais, et pour filer la métaphore, ces conseillers vous disent que quand on gouverne, il n'y a pas de face sud ensoleillée, il n'y a que des faces nord. Après la longue parenthèse, gilets jaunes, grand débat, européenne, on reprend les réformes là où on les avait laissées et annoncées, à commencer par l'assurance chômage. Nouvelle illustration à venir du « et en même temps ». Emmanuel Macron s'est fait le chantre hier à Genève du progrès social, réquisitoire contre le capitalisme fou. Les droits sociaux, a-t-il dit, doivent prévaloir sur la dette, sur les ajustements économiques. Mais ce à quoi va s'atteler Édouard Philippe cet après-midi, c'est justement à durcir les conditions d'accès aux allocations chômage, avec en échange la taxation des patrons qui abusent des contrats courts. L'autre gros morceau sera évidemment la réforme des retraites. Là, on ne devrait pas avoir beaucoup plus de détails, parce que l'exécutif attend que Jean-Paul Delevoye ait dévoilé son plan. Cet après-midi, Édouard Philippe va se poser en réformateur. Le mot sera dans son texte. Alors là, vous allez me dire, oui, quoi de neuf? Eh bien, ce n'est plus la même cordée pour attaquer la phase nord, nous disent ses proches. Emmanuel Macron, marqué par l'épisode Gilets jaunes, veut désormais de l'humanité, de la proximité dans l'exécution de ses annonces. On va donc élargir la cordée, explique Matignon, associer systématiquement les partenaires sociaux, les élus, les associations, la méthode plus douce, mais dans les comptes publics, un sou est un sou. Édouard Philippe, le réformateur, est attendu sur les économies. Comment financer les 5 milliards d'euros de baisse d'impôts promises? La méthode va peut-être changer, pas les contraintes budgétaires.
Et puis deux questions après les européennes. Le succès des écologistes, est-ce que le gouvernement va réellement verdir son action? Et puis une partie des électeurs de droite qui a voté pour cette majorité En Marche et qui est peut-être hostile à la PMA pour toutes. quel sera le calendrier de cette réforme. On verra cela. Vous le disiez, Yaël, hier dans une interview en Suisse, Emmanuel Macron a fixé un cap presque 7 mois après les premières manifestations de Gilets jaunes. La France, dit le président, a traversé une crise très dure. Nous sommes en train de passer d'un monde à l'autre. Une souffrance s'est exprimée. Je veux remettre de la proximité, de l'humanité. Cet après-midi, le Premier ministre a aussi un travail de tissage à accomplir. Retisser le lien avec une partie des Français qui se sont sentis oubliés, voire méprisés ces derniers mois. Parmi eux, les élus locaux qui ont beaucoup râlé. Bonjour Manuel Ruffez.
Bonjour.
Vous avez rencontré un de leurs porte-parole, André Léniel.
Oui, André Léniel, vice-président des maires de France, connu pour sa parfaite connaissance des finances locales. Connu aussi pour son franc-parler. Il n'a pas hésité à reprocher à Emmanuel Macron, au cours d'une des étapes du grand débat, d'avoir trop longtemps dédaigné les élus locaux. Alors sa première attente à André Léniel est liée à un sujet de préoccupation majeure des maires, la disparition totale de la taxe d'habitation.
Qu'on indique clairement comment sera compensée la suppression de la taxe d'habitation dans la durée. Au total, ça représente 23 milliards, ce qui est évidemment considérable, quand même extraordinaire. Quand l'État veut faire un cadeau, il prend l'argent aux collectivités locales. Sauf qu'il va bien falloir qu'il le rende. Et on ne sait pas aujourd'hui, concrètement, comment ça sera rendu, et surtout si on gardera l'évolution des ressources.
Attente de réponse aussi sur des dossiers très concrets soulevés par le mouvement des Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes, on peut penser ce qu'on veut de leur type d'action, mais ils ont levé des vrais problèmes de coût de la vie, des problèmes de services publics, des problèmes de transport. Tout cela, quelle réponse y sera apportée à part de généreuses mais générale banalité.
Il faut cesser le cycle des promesses, conseille donc André Léniel, et entrer dans le temps des réalités.
Après le discours, il y aura le vote de confiance. Édouard Philippe l'obtiendra, aucun doute, les marcheurs ont la majorité absolue. Mais à droite, on sera attentif à l'attitude des députés Les Républicains. Quelle part votera contre la confiance, quelle part s'abstiendra, forme de soutien discret. Cela dans un contexte où beaucoup à droite sont tentés de se rapprocher de la majorité En Marche. Dernier exemple en date, Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole ex-Marseille, souvent citée comme celle qui pourrait succéder à Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille. Eh bien, elle appelle à un rapprochement avec la majorité lors des municipales l'année prochaine. Marseille, où le Rassemblement National est arrivé en tête le 26 mai aux Européennes avec plus de 26% des voix.
Aujourd'hui, Marseille, sa métropole, sont en danger. Vu les résultats du Front National sur les dernières élections, notamment les européennes, eh bien, on voit qu'ils sont en passe de pouvoir gagner la ville de Marseille et sa métropole. Il faut rassembler plus largement la droite, le centre, La République En Marche. Donc c'est le moment où justement tous ceux qui aiment cette métropole, il faut qu'on soit ensemble.
Vous restez au Parti Républicain ?
Je reste aujourd'hui au Parti Républicain, mais c'est pas un problème de parti.
Martine Vassal chez nos confrères de France 3 hier soir. La poutre continue de travailler, pour reprendre l'expression d'Édouard Philippe il y a 2 ans à propos de la recomposition du paysage politique. Le discours de politique générale donc à 15h, puis la réponse des différents chefs de groupe, dont Jean-Luc Mélenchon chez les Insoumis, où là aussi les temps sont durs après les européennes. Sur franceinter.fr ou en podcast. Vous pouvez réécouter le grand entretien du 7-9 ce matin. L'insoumis François Ruffin était avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. La Caisse nationale d'assurance maladie présente sa dernière étude sur les dépenses de santé. Elle permet notamment de montrer l'évolution de ces dépenses sur la période 2012-2017, comprendre quelles sont les pathologies, les maladies qui expliquent les augmentations de dépenses de l'assurance maladie. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour.
Le but, c'est aussi d'expliquer précisément pourquoi.
Oui, alors en tout, ce sont 57 pathologies, traitements ou épisodes de soins qui ont été identifiés, tous regroupés en 13 groupes. Parmi les plus importants, les maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC en constante augmentation depuis 2012. Sans surprise également, les cancers, plus 25% entre 2012 et 2017, ou encore les maladies psychiatriques. De façon générale, à quoi sont dues ces augmentations de dépenses? Deux choses, Aiden Tadjamadi, de la direction de la stratégie et des études statistiques de la CNAM.
Le vieillissement de la population explique une partie de l'augmentation des pathologies, mais toutes les maladies ne sont pas chez des personnes plus âgées, et donc on a une augmentation de certaines pathologies chez des personnes plus jeunes. En ce qui concerne l'augmentation du coût, on a un certain nombre de phénomènes, mais en particulier on a le prix du médicament, qui pour des pathologies comme le cancer ou d'autres maladies avec des nouveaux médicaments qui sont particulièrement onéreux, qui explique une partie de l'augmentation des dépenses.
Et parmi toutes les catégories, on note une nette augmentation des maladies chroniques. Les patients vont vivre longtemps avec des traitements qui génèrent des dépenses importantes au fil du temps. Exemple avec le cancer du poumon qui entre dans ce poste. Près de 80 000 patients en traitement. Une grosse progression, notamment chez les femmes ces dernières années à cause de la hausse du tabagisme chez cette catégorie de personnes et des traitements de plus en plus onéreux, notamment avec l'arrivée de l'immunothérapie. La dépense moyenne pour un patient est passée de 17 000 à 20 000 euros en 6 ans. Alors pourquoi ces données et leur utilité? Il ne s'agit pas de pointer du doigt les malades et leurs pathologies. L'objectif pour l'assurance maladie avec ces données, eh bien, c'est de pouvoir mettre en place des actions de prévention, même de régulation du prix pour, par exemple, diminuer le prix d'un médicament ou favoriser la diffusion de génériques, faire évoluer le système de santé pour qu'il puisse continuer à fonctionner tout simplement.
Merci Adrien. Un accident hier en fin de journée près de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Une collision entre un minibus et un car de transport scolaire. Une conductrice a été tuée et 9 adolescents ont été choqués ou légèrement blessés dans cet accident. C'est l'une des prisons les plus sécurisées de France. Donc, l'une de celles où l'on envoie les détenus particulièrement surveillés ou dangereux. À nouveau, une prise d'otage hier soir au centre ultra sécurisé de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. En mars, c'est un détenu radicalisé qui avait défrayé la chronique. Hier, c'est celui qu'on appelle le recordman des prises d'otages. Francis Dorfer, 6e forfait du genre. Un surveillant et une stagiaire prise en otage avant d'être libérée quelques heures plus tard. Bonjour Sandrine et toi Andegue.
Bonjour.
Sandrine, vous êtes devant cette prison où quelques 50 surveillants ont refusé de prendre leur service ce matin.
Oui, et devant l'une des entrées de l'établissement, quelques dizaines de surveillants sont réunis devant le directeur de la prison. Les bras sont croisés, les visages fermés. Lui leur rappelle à quel point leur présence à l'intérieur de la prison est essentielle. Mais ces gardiens ne se sont pas présentés à leur poste à 7h ce matin comme d'habitude. Un mouvement de solidarité envers leurs collègues séquestrés. Un mouvement de protestation aussi, vous l'avez dit, 3 mois après une autre agression très violente. Soupire Jean-François, surveillant depuis 13 ans, dont 3 à Condé-sur-Sarthe.
On ne nous écoute pas. Là, actuellement, en MCLU, il y a un détenu qui menace de nous agresser. Ça fait 8 jours. 8 jours qu'on fait des écrits, qu'on rencontre. Aucune décision n'est prise. On attend qu'un surveillant soit agressé. C'est ça le problème. Malheureusement, je fais partie des surveillants qui dit à mes enfants, papa, il sait quand il part au travail. Il sait pas s'il revient, quand il revient, comment il revient. J'ai 3 filles et voilà ce que je leur dis.
Venir travailler la peur au ventre, ce n'est plus possible, s'alarme Alassane Sall, secrétaire local FO pénitentiaire.
Il faut faire quelque chose. Il faut aller au-delà des promesses qui se font. Il faut une refonte totale du système pénitentiaire, tout en sachant que ça peut arriver à tout moment. Des Dorfer, il y en a partout. Il n'y a pas qu'à Condé.
Et pour encadrer des détenus au profil aussi dangereux, les syndicats réclament toujours plus de moyens, comme des bâtons télescopiques, des bombes aérosols neutralisantes, une meilleure formation aussi pour le personnel. Les équipements ont été renforcés, assure le porte-parole du ministère de la Justice.
Merci Sandrine et toi Andegue en direct de cette prison de Condé-sur-Sarthe. Les derniers chiffres de l'espérance de vie en France, chiffre qui date de 2017, un peu plus de 85 ans pour les femmes, 85,3, un peu plus de 79 pour les hommes, 79,5. On gagne de l'espérance de vie encore après 60, 70 et 80 ans. C'est le fait marquant de cette dernière étude démographique. Nous sommes à présent à Hong Kong, où se joue un nouvel épisode de la bataille entre les démocrates et Pékin, ce qui a relancé les tensions ces derniers jours. C'est un projet de loi du gouvernement de Carrie Lam qui autorise les extraditions vers la Chine. Menace sur la liberté de parole des opposants politiques à Pékin, dans ce territoire de Hong Kong qui jouait en principe d'un régime de semi-liberté vis-à-vis de la Chine. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ces dernières heures. Vous entendez l'ambiance captée par nos confrères du Guardian, notamment les propos de cette députée pro-démocratie, Claudia Mo.
On sous-estime le pouvoir du peuple à Hong Kong. On sous-estime le pouvoir de la jeunesse hongkongaise. Carrie Lam n'est qu'une minuscule marionnette de Pékin. Elle ne fait que ce que ses patrons à Pékin lui disent de faire.
Alors dans un premier temps, le gouvernement a semblé retirer son projet de loi au petit matin, mais officiellement à ce stade, ce n'est qu'un report. Et surtout, Dominique André, alors que la foule entrait dans le Parlement, la police a sorti les bombes de gaz et les matraques.
Oui, les affrontements ont été violents. La police anti-émeute a utilisé aussi des balles en caoutchouc pour repousser les manifestants, qui sont essentiellement des jeunes et des étudiants vêtus de noir. À l'extérieur, des dizaines de milliers d'opposants au projet de loi étaient rassemblés, encerclant le Parlement. De grands axes de circulation dans le centre-ville de Hong Kong ont été bloqués avec des barrières métalliques et des pavés, des trottoirs ont été arrachés. Certains manifestants ont même installé des parapluies sur les barrières qui sont le symbole du mouvement pro-démocratique de 2014. L'adjoint de Carrie Lam, la chef de l'exécutif local, a appelé les manifestants à se retirer et à ne pas défier la loi. Mais pour le moment, ils sont restés sourds à cet appel. Les manifestants ne sont pas rassurés non plus par le report de l'examen du projet de loi qui autorise les extraditions vers la Chine continentale. En fait, c'est comme une lame de fond qui semble revenir tout à coup sur Hong Kong, comme un nouveau réveil d'une partie de la population hongkongaise qui redoute la fin du statut spécial accordé à l'ancienne colonie britannique jusqu'en 2047. Des manifestants qui veulent sauver leur liberté, qui n'existe pas en Chine continentale. Et les violences se poursuivent en ce début de soirée à Hong Kong.
Merci Dominique André, en direct de Pékin pour France Inter. L'actualité internationale, c'est encore le dernier jour de procès des indépendantistes catalans. Souvenez-vous, fin de l'année 2017, la région espagnole de Catalogne au bord de la sécession. 12 militants sont jugés depuis le mois de janvier, Mathieu de Taillac.
Pendant 4 mois, c'est le processus indépendantiste dans son ensemble qui a été jugé. L'action conjointe du gouvernement régional, du Parlement catalan et des activistes était l'objet des questions posées aux témoins. Les preuves, les vidéos notamment, étaient utilisées par l'accusation et par la défense pour démontrer, ou au contraire pour exclure, l'existence de violences nécessaires pour pouvoir parler de rébellion. Ce matin, les avocats ont différencié, au contraire, l'attitude de chacun de leurs clients. L'avocate de Jordi Cuixart, le président de l'association indépendantiste Omnium, a rappelé que son client n'est pas un politique et considéré qu'il s'est limité à exercer le droit à la manifestation. De son côté, l'avocate de l'ex-présidente du Parlement catalan a rappelé que cette dernière, Carme Forcadell, n'avait aucun pouvoir exécutif et qu'elle n'a pas organisé le référendum. L'avocate d'une ex-ministre régionale a indiqué qu'aucune dépense occasionnée par le scrutin n'a été imputée au département de sa cliente. Cet après-midi, les accusés auront l'occasion de se défendre eux-mêmes en faisant usage du droit au dernier mot. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
En Grande-Bretagne, alors que la bataille pour la succession de Theresa May bat son plein, ce rappel de la Commission européenne, Londres devra honorer ses engagements financiers, même s'il y a un no deal, un Brexit dur, il y a 40 à 45 milliards d'euros en jeu. Le 9 novembre prochain, on célébrera les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'était la première étape vers le passage de l'Europe de l'Est à la démocratie. 30 ans après, une étude démographique raconte toutes les difficultés de cette transition démocratique. Étude passionnante publiée dans la revue Population et Société. L'une de ses auteurs, Agnieszka Fiel, est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à la fois à l'Université de Varsovie et à l'Institut des Migrations de Paris.
Oui,
au fond,
tout à fait.
Avec la transition démocratique, les pays de l'Est ont perdu beaucoup d'habitants.
Exactement, on observe deux régimes démographiques différents au sein de l'Union européenne. D'un côté, nous avons ces 11 pays post-communistes qui ont perdu pendant 30 ans presque 7% de leur population, si on le compte ensemble. Et de l'autre côté, nous avons tous les autres membres de l'Union européenne qui expérimentent une croissance démographique. Donc, vraiment, il y a une différence très importante entre ces deux groupes de pays.
Voilà, ces pays de l'Est qui sont passés de 111 à 103 millions de personnes. Alors évidemment, oui. La question c'est pourquoi. Je vais vous la poser dans un instant, Agnieszka Fiel. D'abord, je voudrais vous faire entendre le témoignage d'une dame qui s'appelle Nicolette Akish. Elle préside la branche jeunesse d'un des syndicats hongrois. Comment et pourquoi les jeunes en particulier quittent le pays? Elle raconte cela à Louise Baudet lors d'un reportage récent.
En fait, l'Union européenne permet la liberté de mouvement. C'est donc une tendance naturelle. Les jeunes vont plus facilement chercher ailleurs des conditions de travail et de vie meilleures. En Hongrie, les salaires ne sont vraiment pas élevés et cela n'encourage pas les jeunes à rester au pays. Quand ils rencontrent une difficulté au travail, au lieu de négocier, ils préfèrent quitter l'entreprise. Et au niveau national, c'est la même chose. Ils finissent par partir à l'étranger. Le principal problème pour eux, c'est des bas salaires. Un jeune gagne beaucoup moins que les plus vieux en début de carrière. Et c'est de plus en plus difficile de commencer une vie autonome. Impossible d'acheter un appartement, de fonder une famille. Et pourtant, ce gouvernement veut encourager les Hongrois à faire des enfants.
Alors voilà déjà pas mal d'éléments d'explication. C'est ce qui est terrible, c'est que ce sont les jeunes qui partent, Agnieszka Fiel.
Oui, exactement. Il y a deux facteurs que cette madame a expliqué. Déjà, les pays de l'Europe centrale sont du terme démographique un peu plus jeunes que ce pays de l'Europe de l'Ouest. Et du coup, on a un grand potentiel migratoire qui est constitué de jeunes. Le deuxième facteur, c'est le fait que les salaires sont beaucoup plus bas en Europe centrale. Et c'est plus facile de gagner sa la vie en Europe de l'Ouest.
Et du coup, la conséquence, c'est que l'entrée d'une partie de ces pays dans l'Union européenne, elle a accéléré le phénomène. On pourrait se dire, bon, ils tournent un peu plus la page des années communistes, donc ils vont rester dans leur pays. Mais non, ça a accéléré le phénomène.
Oui, tout à fait, mais c'était inévitable. À mon avis, c'était inévitable vu les conditions économiques qui étaient très différentes en Europe centrale, mais aussi ces grands potentiels de la jeunesse. Donc, si c'était à cause de l'élargissement de l'Union européenne, si c'était une autre circonstance historique, c'était inévitable, à mon avis.
C'était exactement la même chose. Est-ce que ces dernières années, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la situation économique s'améliore, que la démocratie s'installe, est-ce qu'il y a des retours ou est-ce qu'au moins les départs sont moins fréquents, se ralentissent?
Alors, déjà, il faut dire que le flux migratoire devient de plus en plus bas. On a enregistré le flux de retour pendant la crise financière 2007, 2008, 2009. Et c'est vrai que maintenant, les migrations sont assez stables. On compte toujours presque plus que 8 millions de ressortissants de ces 11 pays de l'Europe centrale en l'Union européenne, oui, dans d'autres pays membres. Donc, vraiment, on voit que ça s'améliore au niveau des migrations, et aussi on voit que la fécondité, qui est la douzième raison pour cette situation démographique assez difficile, la fécondité commence à remonter vers 2005 en Europe centrale.
Donc la situation s'améliore. Autre point, et ce sera le dernier qu'on va mettre en valeur, il y a beaucoup de représentants des minorités qui sont partis. Là, ça pose la question de leur statut et de la liberté pour ces minorités dans les pays de l'Est.
Oui, les minorités, on peut toujours dire que le Brexit, c'est aussi une conséquence de cet grand flux migratoire de l'Union centrale, surtout les Polonais, les Roumains. Voilà, mais ce sont des personnes qui se sont déjà bien installées, parce qu'on parle toujours des événements qui ont lieu il y a 15 ans. Oui. Donc ce sont des personnes qui sont déjà bien installées, qui ont fondu leur famille à l'étranger, et voilà, qui ont commencé leur éducation à l'étranger.
Merci à Agnieszka Fiel d'avoir répondu à nos questions, et merci à Thibaut Nassim Ben qui était à vos côtés pour la liaison technique. Les détails sur cette étude qui nous raconte beaucoup de l'histoire récente de l'Europe, on les trouve sur franceinter.fr. Allez, c'est le moment de notre rendez-vous quotidien avec la Coupe du Monde féminine de football. Et voilà un signe tangible du succès d'audience pour l'instant des matchs des Bleus pour la deuxième rencontre ce soir. Le spot de pub sur TF1 va passer de 66 000 euros les 30 secondes, ça c'était la première rencontre, à 95 000, voire plus de 100 000 à la mi-temps. Et le match de ce soir, sportivement, devrait être plus intéressant que celui de vendredi dernier. Après le 4-0 en ouverture contre la Corée du Sud, c'est la Norvège, l'une des équipes favorites du tournoi, qui se présente face aux Bleus à Nice. La Norvège sans sa meilleure joueuse, Cédric Guillou.
Ada Egerberg qui loupe le mondial, c'est comme si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo n'étaient pas là chez les garçons pour le plus grand rendez-vous football de l'année. Ada Egerberg, c'est la meilleure joueuse du monde, premier ballon d'or féminin de l'histoire.
Elle est internationale norvégienne, elle évolue à l'Olympique Lyonnais. Mesdames et messieurs, Ada Egerberg!
Ada Egerberg a annoncé son retrait de l'équipe nationale en juillet 2017 après la défaite de la Norvège face au Danemark lors du championnat d'Europe. Elle s'est retirée en dénonçant le manque de considération pour le foot féminin par rapport au foot masculin, l'inégalité des salaires, des primes. La fédération norvégienne avait vite réagi pour rattraper sa meilleure joueuse, mettant en place fin 2017 l'égalité des salaires entre joueurs et joueuses. Pas suffisant aux yeux d'Ada Egerberg. Je ne représente pas ma fédération, mais je représente mon pays, dit-elle. J'assume. Egerberg ne sera donc pas là ce soir face aux Bleus. Nice, Cédric Guillou, France Inter.
Et le coup d'envoi de ce France-Norvège, c'est à 21h également au programme aujourd'hui. Nigeria, Corée du Sud à 15h à Grenoble et Allemagne-Espagne à Valenciennes à 18h. Et puis en cyclisme, c'est une étape importante dans le critérium du Dauphiné, la dernière grande épreuve avant le Tour de France, le contre-la-montre individuel autour de Roanne.
Comme c'est amusant. Tout le monde a besoin d'une amie. Mais on est plus que des amis. On a un lien. Oh mon Dieu ! Essayez donc de vous débarrasser de Greta.
Petit extrait de la bande-annonce de notre film de la semaine. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Ça fiche la trouille votre truc. Isabelle Huppert dans Greta du réalisateur irlandais Neil Jordan. Isabelle Huppert dans le rôle d'une psychopathe à New York. Elle jette son dévolu sur les jeunes femmes dans le métro. Une arme redoutable. Son sac à main.
Voilà un petit sac très chic, tout en cuir, très maison de couture italienne, ouais. Qu'elle abandonne toujours au même endroit, sur un fauteuil, dans le métro, après avoir choisi sa proie. La victime trouve le sac, découvre à l'intérieur une carte d'identité, rapporte le sac évidemment à sa propriétaire, et là c'est le début d'un engrenage redoutable, harcèlement, menace et parfois même bien pire. Isabelle Huppert, dans le rôle de Greta, possède dans son living group toute une collection de ses sacs avec des post-it collés dessus, à chaque fois un nom, une date et un archivage digne d'Annie Bal Lecter.
Isabelle Huppert en méchante, ça fonctionne toujours.
Voilà, on l'avait vu il y a deux mois jouer l'affreuse belle-mère de Blanche-Neige dans le nouveau film d'Anne Fontaine. La voilà cette fois encore pire dans un rôle de femme psychopathe qui sautille sur du Chopin tout en empilant des cadavres dans la cave. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures scènes du film qui ne réinvente pas les codes du thriller mais qui comporte son petit lot d'angoisse car derrière ses manières raffinées, son amour pour le piano, ses vêtements chics et ses belles photos de famille, Greta n'est pas exactement ce qu'on appelle une femme recommandable.
Et la victime qu'on suit dans le film, c'est Chloé Grace Moretz dans le rôle de Frances, jeune femme serveuse dans un restaurant à la vie très routinière.
Et qui porte surtout le deuil de sa mère qui vient de disparaître. La victime parfaite, autrement dit, pour permettre à Isabelle Huppert de déployer toute son emprise en jouant à la mère de famille abandonnée. Elles vont s'appeler, se voir, devenir amies, aller ensemble, même acheter un chien pour reconstruire petit à petit une sorte de relation de substitution mère-fille un peu malsaine qui va conduire Chloé Grace Moretz, tout droit en enfer. Évidemment, les amateurs de suspense devraient y trouver leur compte.
Et les fans d'Isabelle Huppert aussi. Greta de Neil Jordan au cinéma cette semaine. La comédienne est aussi au Théâtre de la Ville à Paris dans le rôle de Mary Stuart jusqu'au 6 juillet. Pièce de Robert Wilson, Mary Said What She Said.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas.
Une perturbation pluvieuse tarde à évacuer le Nord-Pas-de-Calais, maintenant un temps gris et pluvieux pour cet après-midi. Entre la Bretagne, la Normandie, la Picardie, l'Île-de-France, jusqu'au nord de l'Aquitaine et à l'ouest du Massif central, c'est un ciel de traîne qui se met en place avec des averses qui se développent tout au long de l'après-midi. Des orages risquent d'éclater et sous les orages les plus forts, de fortes rafales de vent sont possibles et de la grêle n'est pas exclue. Sur les Pyrénées et entre l'Auvergne, la Bourgogne et les Ardennes, quelques averses peuvent aussi se produire mais restent isolées. Partout ailleurs, ce sont les belles périodes ensoleillées qui dominent entre le golfe du Lion, la Provence et le Lyonnais, ainsi que sur les plages de la Corse. Le ciel reste même quasiment tout bleu cet après-midi. Une petite hausse des températures est prévue cet après-midi, mais les maximales restent en dessous des normales saisonnières, variant entre 15 et 23 degrés en général, avec jusqu'à 27 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur.